Alors, installez-vous confortablement et embarquons ensemble pour ce voyage entre science, mystère et imagination. Le soleil avait rendez-vous avec la lune, mais la lune préféra s'éclipser.
Le soleil, la lune, les étoiles et les astres. Le mot astre désigne de manière générale tous les corps célestes observables dans l'univers, le soleil, la lune, les étoiles. En astronomie, on utilise ce terme pour regrouper différents types d'objets naturels situés au-delà de la Terre. En version courte, un astre est un objet naturel dans le ciel. Depuis la nuit des temps, les anciens avaient remarqué la présence de 7 astres errants parmi les étoiles. Ces 7 astres sont le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Leurs noms vont être associés aux jours de la semaine dans la plupart des langues européennes. Tous les noms des jours de la semaine sont des mots composés. On y trouve à chaque fois la syllabe « di » qui vient du latin « dies » signifiant « jour ». Lundi, jour de la Lune, mardi, Mars, mercredi de Mercure, jeudi de Jupiter, vendredi associé à Vénus, samedi, jour de Saturne, et dimanche, le jour du Soleil. En astronomie, on utilise ce terme « astre » pour regrouper différents types d'objets situés au-delà de la Terre. Plus précisément, des objets naturels présents dans l'univers, formés de matière, gaz, roche, plasma, émis, régis par des lois physiques comme la gravitation, étudiées notamment en physique. On distingue plusieurs grandes catégories. Les étoiles, 200 milliards d'étoiles dans la Voie lactée, comme le Soleil, qui produisent leur propre lumière. Les planètes, comme la Terre ou Mars, qui tournent autour d'une étoile. Il y aurait 20 planètes autour de la Terre. Les satellites naturels, comme la Lune, les petits corps, comme les comètes, astéroïdes. En résumé, plus précisément des objets naturels présents dans l'univers, par opposition aux objets artificiels comme les satellites fabriqués par l'homme. Dans une approche plus ancienne ou symbolique, comme astronomie ou philosophie, les astres vont être vus comme des repères dans le cosmos, des éléments qui influencent ou reflètent l'ordre du monde, parfois même liés au destin humain. Par exemple, depuis l'Antiquité, les mouvements du Soleil et de la Lune servaient à organiser le temps et les calendriers. Toutes les planètes sont des astres, mais les astres ne sont pas tous des planètes. La Lune est un astre, mais pas une planète, c'est un satellite. Le Soleil est un astre, mais pas une planète, c'est une étoile au centre de notre système solaire. Son diamètre de 1,4 million de kilomètres est environ 110 fois plus grand que celui de la Terre. Le Soleil représente à lui seul 99% de toute la masse du système solaire. Chacun de nous est une lune, avec une face cachée que personne ne voit.
Voilà, aujourd'hui nous accueillons Florian Guillard,
bonjour
Florian. Mais on vous connaît puisqu'en fait vous êtes déjà intervenu dans notre émission de l'année dernière qui s'appelait La Nuit. Donc voilà, La Nuit, ça s'est très bien passé et donc on a fait appel à vous pour notre thème de ce mois-ci, la Lune. Mais oui, c'est la Lune.
Très bon choix.
N'est-ce pas? Et en plus de ça, il y a plein d'événements en ce moment, c'est incroyable. On va en parler un peu plus tard. Dites-moi, on vous laisse vous présenter rapidement. Vous êtes à Fontaine-sous-Jouy, je crois.
C'est ça. Donc, le centre de formation Fontaine aux Étoiles est basé à Fontaine-sous-Jouy. Voilà. Et donc, moi, j'en suis le responsable et l'animateur, en fait. avec d'autres collègues. Et donc, voilà, donc on propose différentes animations, différentes formations pour un peu tous les publics. Voilà, voilà.
D'accord, on reviendra peut-être en finale pour revenir là-dessus. Donc aujourd'hui, ben, c'est la Lune. Alors, est-ce que c'est astre, planète ou encore un autre mot ?
Ah ben, la Lune, c'est clairement un satellite naturel, comme, ben, comme il en existe plein en fait. Hein. Il se trouve que la Terre a uniquement un seul satellite, la Lune. Mais voilà, la plupart des planètes ont aussi leurs propres satellites. Par exemple, la planète Saturne compte aujourd'hui 274 lunes.
Ah, ça s'appelle aussi des lunes, alors, autour de Saturne.
Oui, on peut dire des lunes ou des satellites. Voilà, c'est assez parlant pour les gens, en fait.
D'accord. Alors, son apparition, ça date de quand, à peu près ? Je sais pas, moi, j'ai un mot, là, le fameux Big Bang, non ?
Ah oui, non. C'est plus récent. Hein. On est plutôt à une époque, il y a 4,5 milliards d'années.
Ah ben, c'est pas mal déjà, hein, quand même. Hein.
Oui, oui. Alors, bon, évidemment, c'est très, 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 très loin, hein, très, très ancien. Mais en même temps, le Big Bang, là, c'est 13,8 milliards d'années. Là, on est plutôt à 4,5 milliards. Donc, c'est d'une certaine manière beaucoup plus récent. Et ça correspond à la période de la formation du système solaire. Voilà. Donc, une fois que le Soleil s'est formé, les planètes, avec le peu de matière qui restait encore à engranger, en fait, se sont formées. Et la Terre s'est formée. Et malheureusement, il lui est arrivé une mésaventure, c'est qu'elle a été vraisemblablement percutée par un astéroïde de très 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 grande taille, et du coup ça a arraché en fait une bonne partie de la matière terrestre, et qui matière qui s'est mise en orbite en fait autour de la Terre.
D'accord, donc en fait c'est un petit morceau de la Terre, quoi.
Alors, effectivement, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est intéressant d'explorer la Lune, parce que explorer la Lune, c'est en vrai explorer la Terre telle qu'elle était aux origines, en fait.
Oui, c'est pour ça qu'il y a tant de recherches et tant de projets pour aller soit sur la Lune, soit aller voir comment elle est un petit peu. Par contre, sa composition, ses dimensions, l'éloignement de la Terre, un petit peu de technique peut-être.
Alors, la Lune, elle est pas si loin que ça. Enfin, elle est à environ 380 000 kilomètres. Il faut 3 jours pour y aller quand même.
D'accord.
Hein, 3-4 jours, et puis maintenant on connaît bien sa composition. Hein, on va dire que la roche lunaire, c'est essentiellement de la régolithe, donc une espèce de poussière extrêmement qui se fourre partout d'ailleurs, ce qui est un problème pour les astronautes, parce que ça c'était très ennuyeux au moment des missions Apollo, ça pouvait se signaler en fait. Voilà, c'est assez abrasif. C'est une espèce de poudre en fait grise. Voilà, donc.
Alors, on la voit de la Terre, mais je crois que c'est pas immédiat. Il y a ce qu'on appelle la vitesse en fait de la lumière. C'est ça ou pas ?
Ah oui. Alors effectivement, elle n'est pas très très loin, mais à la vitesse de la lumière, la Lune se trouve à 1,25 seconde, donc seconde, donc lumière en fait. Voilà, donc quand on voit la Lune, en fait, on la voit telle qu'elle était il y a un peu plus d'une seconde.
D'accord, oui, c'est toujours très difficile à appréhender et à comprendre, hein, cette notion de différence quand même. Hein. Oui, allez-y.
Oui, non, mais donc la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km/s, et donc la Lune, comme elle est à 380 000, donc voilà, ça fait juste un tout petit peu plus d'une seconde pour percevoir la lumière de la Lune. En fait.
D'accord, et on n'en voit qu'une partie, hein, de cette Lune de notre Terre.
Alors oui, on voit toujours la même face, alors plus ou moins complètement selon les phases en fait, hein. Mais en tout cas, c'est toujours la même face, parce qu'il se trouve que la Lune, en fait, elle tourne autour de la Terre, ça c'est sûr, mais elle tourne aussi un peu autour d'elle-même, et à la même vitesse. Donc c'est ce qui fait que on voit toujours la même face.
Ok. Oui. Bonjour Florian.
Bonjour.
C'est Sylvie à l'antenne. Enchantée. Oui. Pouvez-vous nous dire pourquoi la Lune a différentes phases?
Parce que tout simplement la Lune elle tourne autour de la Terre, elle est éclairée par le Soleil, et nous on la voit toujours de notre point de vue, c'est-à-dire du point de vue de la Terre. Et comme elle tourne autour de nous, eh bien à un moment donné on va avoir juste un tout petit bout éclairé par le Soleil. Quand elle sera plus sur le côté, on en verra un quartier. Un peu plus tard, on en verra encore un peu plus. Et puis lorsqu'elle sera complètement à l'opposé du Soleil, de notre point de vue, eh bien, on la verra complètement éclairée. Voilà, c'est essentiellement lié à la révolution de la Lune autour de la Terre.
Oui, c'est ça. Il s'agit de la Lune croissante, décroissante, gibbeuse,
oui,
la
ça.
Pleine Lune, etc.
C'est ça, effectivement.
Très bien. Sinon, en préparant cette interview, on a eu une information sur un grand événement du mois de juin. De quoi s'agit-il, au juste ?
Alors, c'est un événement international, en fait, qui consiste à fêter la Lune, tout simplement.
Oui.
Ça s'appelle On the Moon Again, sur la Lune à nouveau. Et donc, alors s'il n'y a pas d'événement particulier, bah, c'est juste un prétexte pour sortir les télescopes et même simplement lever les yeux au ciel, hein, et puis observer la Lune à l'œil nu, aux jumelles, aux télescopes, etc. Bon, là, il se trouve qu'il y a quand même des événements qui se bousculent un petit peu parce que il y a eu la mission Artemis 2 qui a consisté à faire un tour de Lune, enfin pas que, hein, mais à contourner la Lune et préparer les prochaines missions Artemis. Et donc Artemis 4 consistera à retourner, à marcher à nouveau sur la Lune, mais pas que, hein, ça consistera en fait à démarrer les travaux pour construire une base lunaire en fait.
Mais est-ce que ce sera aussi pour aller voir la face cachée de la Lune ?
Alors, oui, certainement.
Mais je crois qu'ils sont allés, ils sont allés là, Artemis, non ?
Ils sont pas. Ils ont pris des photos.
Ils ont pris des photos. Non, ils sont pas allés de
tout. Bon, cette notion de face cachée, c'est juste par rapport à là où on est sur Terre, mais une fois qu'on est sur place, en fait, on peut pas vraiment. Enfin voilà, c'est une notion qui a beaucoup moins de sens en fait. Et d'ailleurs, pour les scientifiques, ce qui compte, c'est plutôt les pôles en fait, le pôle Nord et le pôle Sud, puisqu'il y a aussi quand même quelques objectifs de comment dire d'exploitation de la roche en fait, notamment au pôle Sud en fait.
Premier pas sous la lune. premier pas sous la lune, une bougie qui s'allume. Premier pas sous la lune, un chemin sur la dune. Premier pas sous la lune, une bougie qui s'allume. Premier pas sous la lune, un sourire qui s'allume.
Nous avons écouté Calogero, premier pas sur la Lune. Et justement, 1960, la Lune n'est plus une planète, mais une cible.
Alors, Sylvie, c'est pas tout à fait exact, 1960.
Alors, dis-nous tout, Marie-Claude.
En fait, le désir d'aller sur la Lune commence beaucoup plus tôt. En 1865, l'imagination de Jules Verne nous emmène en voyage de la Terre à la Lune. Puis, 1902, Georges Méliès filme le voyage dans la Lune avec un obus atterrissant dans l'œil de la Lune, tout le monde s'en souvient. Et enfin, en 1955, la Lune devient vraiment une cible avec Objectif Lune de Tintin par Hergé. Et l'aventure commence en 1957 avec l'URSS qui envoie dans l'espace la chienne Laïka, premier être vivant, a monté dans un engin spatial nommé Sputnik 2. À partir de cette date, la course à la conquête de la Lune voit l'affrontement des deux superpuissances du moment, les États-Unis et l'URSS. Mais alors pourquoi la Lune ? Comme l'a dit notre invité, elle est la plus proche de la Terre, donc facile à atteindre. Mais aussi, elle représente un symbole. En conséquence induite, en plus, elle permet d'observer la Terre d'en haut et d'en découvrir l'état de santé en quelque sorte. Et croyez-moi, les découvertes sont nombreuses, mais c'est une autre histoire. Les programmes lunaires ont pour nom Luna, pour les soviétiques, et Apollo pour les américains. Et de succès en échec, les deux nations réussissent à déposer des instruments, des engins motorisés sur la Lune, à extraire et ramener des échantillons de la surface. Et enfin, en juillet 1969, à allunir sur la Lune. C'est la mission Apollo 11, avec deux hommes qui foule le sol de cet astre pour la première fois. Buzz Aldrin et Neil Armstrong avec cette phrase. C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité. Les missions ont continué jusqu'en 1972, mais se sont arrêtées faute de moyens financiers et puis d'intérêt pour d'autres cibles telles Vénus et récemment Mars, la planète rouge. Au total, 12 hommes ont foulé le sol lunaire, tous américains. Mais l'aventure spatiale a continué. Une station spatiale habitée, l'ISS, a vu le jour en 2011 pour remplacer la station Mir des Russes qui était vieillissante. Elle regroupe toutes les techniques, les inventions des Américains, les technologies des Américains, des Européens, des Canadiens et des Russes. En fait, il y a beaucoup d'États qui se sont raccrochés en fait à cette mission pour apporter leurs compétences, leur expérience, leur apport financier peut-être aussi. En France, il y a eu et il y a 12 astronautes, dont deux femmes, Claudie Aigneret et Sophie Adenau, actuellement dans l'espace avec la mission Artemis 2 qui est allée de l'autre côté de la Lune. Notre astronaute chouchou, Thomas Pesquet, est sur la liste des astronautes pour marcher sur la Lune dans quelques années. Il en rêve. Un Normand sur la Lune. Oh, quelle fierté! Mais Sylvie, je m'interroge. La Lune est pleine. J'y j'ignore qui l'a mise dans cet état.
Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi. Chaque mois, la Lune connaît plusieurs phases. De la nouvelle Lune à la pleine Lune, notre satellite naturel croît puis décroît en suivant le cycle continu de transformation. Ce cycle lunaire s'explique notamment par le fait que la Lune ne produit pas sa propre lumière. La lumière argentée qu'on voit dans le ciel provient de la lumière du Soleil, qui se reflète sur la surface monochrome du satellite. Nous voyons toujours la même face de la Lune, et ce, même si les deux faces sont éclairées. Au cours de son orbite, elle n'est jamais entièrement sombre. Alors que la Lune et la Terre et le Soleil effectuent leur danse orbitale, la partie de la Lune sort et entre de notre champ de vision, ce qui crée une série prévisible de phases lunaires. Tous les mois, sans exception, on peut donc observer 8 phases distinctes qu'on reconnaît par la taille de la surface éclairée visible depuis la Terre. Elles sont dans l'ordre. La nouvelle Lune, le premier croissant, le premier quartier, la Lune gibbeuse croissante, la pleine Lune, la Lune gibbeuse décroissante, le dernier quartier et le dernier croissant. Mais la Lune a beau être grise dans l'imaginaire commun, on la retrouve bien souvent associée à diverses couleurs. Je vous propose d'observer le ciel nocturne. Vous voulez un spectacle magique ? Alors admirez la Lune rouge, la Lune de sang. Elle est le signe du renouveau et de la transformation personnelle, que ce soit sur le plan affectif ou spirituel. Elle est propice à la croissance individuelle. Cette lune rouge se produit lors d'une éclipse totale de lune, quand la Terre s'aligne parfaitement entre le Soleil et la Lune. La Terre, en filtrant les rayons lumineux, ne laisse passer que le rouge très très intense. Elle prend alors une couleur cuivrée qui est le reflet des seuls rayons du Soleil. Tout comme la lune rousse, qui commence à la nouvelle lune qui suit Pâques, et son magnifique éclat cuivré aussi, surgissant comme une énigme céleste. Il arrive parfois qu'elle ne prenne aucune couleur. La lune rousse symbolise le mystère et le renouveau printanier, la reconnexion avec la nature. Et maintenant, on part pour une scène céleste rare, qui ne revient qu'une fois, tous les 2 ou 3 ans, où il y a 2 pleines lunes dans le mois. C'est la super lune bleue, malgré son nom elle n'est pas bleue, qui est la 2e pleine lune du mois dans un cycle de 13 lunes, comme cette année dans la nuit du 30 au 31 mai. Le vrai spectacle n'est pas sa couleur, mais elle attire les regards. Pour en profiter, il faut être matinal, entre 6h30 et 7h30 du matin, quand la lune est très basse sur l'horizon ouest. Elle peut paraître 14 fois plus grosse que lorsqu'elle est le plus éloignée de son orbite. La super lune bleue est considérée comme un moment puissant pour définir des intentions, se libérer de l'énergie négative et manifester l'abondance. Parfois, la lune prend aussi une couleur bleue ou verte. Bon, la lune cendrée, elle, n'a rien d'exceptionnel. On distingue un croissant lumineux flou, éclairé d'un gris plus ou moins clair. Il peut arriver qu'en février, aucune pleine lune ne soit visible. On parle alors de la lune noire. Elle symbolise l'obscurité de la création, le lieu où les commencements se développent. Et je termine avec la lune blanche, la lune classique qui reflète vers nous la lumière du soleil. Mais c'est aussi un poème de Verlaine. La lune blanche luit dans les bois, de chaque branche par une voix, sous la ramée, ô ma bien-aimée, l'étang reflète profond miroir, la silhouette du saule noir où le vent pleure. Rêvons, c'est l'heure. Un vaste et tendre apaisement semble descendre du firmament, que l'astre irise, c'est l'heure esquisse. Mais il ne faut pas croire qui promet la lune.
Eh bien, allons voir si Pierrot nous donne la lune. Une douce mélodie. Une comptine française, sans doute la plus célèbre, qui a bercé mon enfance, celle de mes enfants, puis de mes petits-enfants, au clair de la lune. Ayant toujours entendu que cette comptine, avec sa douce mélodie, cachait un double sens et pas mal de sous-entendus coquins, le choix du thème de notre émission ce mois-ci, la Lune, était une occasion trop belle pour satisfaire ma curiosité et vous éclairer sur cette chansonnette. Son origine. Bien qu'universellement connue, son origine reste un mystère. La musique, souvent attribuée à Jean-Baptiste Lully, célèbre compositeur de Louis XIV au XVIIe siècle. Mais aucune preuve n'est venue confirmer le nom du compositeur. La mélodie se transmet oralement et ce n'est qu'au XVIIIe siècle qu'elle fut fixée sur un papier. Ce sont surtout les paroles qui ont éveillé ma curiosité, entre poésie double sens. C'est l'histoire d'un homme, Lubin, qui n'a plus de chandelle pour écrire et qui demande l'aide de son voisin Pierrot.
Prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Excusez-moi. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu.
On ne connaît souvent que le premier couplet, mais la comptine entière est une pièce de théâtre entre plusieurs personnages de la Commedia dell'arte. Pierrot, un personnage lunaire vêtu de blanc, et Arlequin, le beau brun. Double sens possible, la plume. À l'époque, dans certaines chansons populaires, plume pouvait désigner un symbole à connotation sexuelle masculine. Prête-moi ta plume ne voulait pas dire emprunter un stylo. Je n'ai plus de feu pouvait évoquer la lumière, mais aussi le désir amoureux ou la passion. Battre le briquet que l'on rencontre dans le second couplet, le briquet avait pour sens l'amour, battre l'amour. Ouvre-moi ta porte, là encore on peut y voir une métaphore de la disponibilité amoureuse ou sexuelle. Au clair de la lune, Pierrot répondit, je n'ai pas de plume, je suis dans mon lit. Va chez la voisine, je crois qu'elle y est, car dans sa cuisine on bat le briquet. Au clair de la lune s'en va le beau brun, frappe chez la voisine, il ne dit pas qu'un. Qui frappe de la sorte, il dit un petit mot, ouvre-moi ta porte pour le jeune Pierrot. Au clair de la lune, on n'y voit qu'un peu, on chercha la plume, on chercha le feu. En cherchant de la sorte, je ne sais ce qu'on trouva, mais je sais que la porte sur eux se ferma. Je vous laisse imaginer ce qui pouvait se passer derrière cette porte fermée. Beaucoup de chansons enfantines étaient à l'origine des chansons de rue, des chansons à boire ou des chansons grivoises. Comme par exemple « Il court, il court le furet »,« Nous n'irons plus au bois » ou « Qu'à des roussels ». Pour les spécialistes, il n'existe pas de preuve que chaque vers ait été volontairement obscène. Ils évoquent plutôt une double lecture, l'argot ancien et l'humour populaire. Un fait historique pour conclure cette chronique. Au clair de la lune est aussi célèbre pour être le premier enregistrement sonore identifiable de la voix humaine en 1860 par Édouard Léon Scott de Martinville, inventeur français de la première machine capable de donner une trace graphique d'un son.